Et je vous souhaite un très bon réveil et j'accueille Margot Delpierre pour le journal. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Washington va imposer des sanctions douanières sur 7,5 milliards de dollars de produits européens. Le président américain s'en réjouit, vous l'entendrez. Quels sont les produits concernés ? On fait le point avec Grégory Phillips.
Le temps presse pour le Royaume-Uni, nous dira Antoine Chignot. Le Brexit est prévu le 31 octobre, mais sous quelles conditions ? La proposition faite hier par Londres n'a pas convaincu Bruxelles.
Bruxelles, où était entendue hier Sylvie Goulard, dont le CV est entaché par des affaires. Les eurodéputés veulent des informations supplémentaires avant de statuer sur la candidature de la Française à la Commission européenne. Et après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Margot, radicalisation, dérive sectaire, comment lutter ? On posera la question à une anthropologue, Nathalie Lucas.
L'OMC se comporte beaucoup mieux avec nous depuis que je suis président. Ils comprennent qu'ils ne peuvent plus, comme pendant des années, arnaquer les États-Unis. On enregistre beaucoup de victoires. Là, c'est une victoire à 7,5 milliards de dollars.
Le président américain Donald Trump n'a pas caché sa satisfaction hier soir. L'Organisation mondiale du commerce a autorisé Washington à prendre des sanctions records contre plusieurs pays européens dans un vieux litige qui oppose l'américain Boeing à Airbus. L'OMC a reconnu que le constructeur aéronautique européen avait bénéficié de subventions indues. Immédiatement, Washington a annoncé des tarifs douaniers punitifs. Ils concernent 7,5 milliards de dollars de produits européens importés aux États-Unis. Le détail avec Grégory Phillips.
La liste des biens concernés a été publiée tard hier soir sur le site du représentant américain au commerce. Elle fait 9 pages et elle recense tous les produits qui bientôt seront soumis à ces nouvelles taxes. D'abord, les avions fabriqués en Europe et importés aux États-Unis, plus 10%, mais ça ne concerne pas les pièces détachées pour ne pas pénaliser Boeing. Page 4, on lit que les vins français seront taxés à 25%. Même chose pour la plupart des fromages fabriqués en France, le beurre, la viande de porc, 25%. L'Allemagne, elle, est visée sur son café, ses tournevis, le Royaume-Uni sur ses costumes pour hommes, les maillots de bain pour femmes ou encore son whisky. On note que les champagnes et cognacs français sont pour l'instant épargnés. Hier, en fin d'après-midi, Donald Trump évoquait, après la décision de l'OMC, une grande victoire pour les États-Unis, mais l'administration américaine ne ferme pas encore complètement la porte à la négociation. Ces nouveaux tarifs sont censés s'appliquer à compter du 18 octobre, dans 2 semaines.
La correspondance de Grégory Phillips à Washington, on y reviendra dans la revue de presse internationale de Camille Magnard à 7h35. Autre date importante en octobre, le 31, date prévue du Brexit. Hier, le Premier ministre britannique a proposé à l'Union européenne un nouveau plan pour la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Une offre finale à prendre ou à laisser selon Boris Johnson, mais qui n'a pas convaincu Bruxelles. Si le président de la Commission européenne constate des progrès, il affirme que certains points sont toujours problématique. Jean-Claude Juncker veut continuer à négocier pour éviter un Brexit sans accord, mais c'est désormais une course contre la montre, Antoine Gignot.
C'est une question de calendrier. Le prochain sommet européen a lieu dans 15 jours. Il faut, avant la réunion, faire valider les propositions par les services juridiques et les faire lire aux responsables politiques des 27 pays de l'Union. Il reste, en clair, à peine plus d'une semaine pour boucler le dossier, explique Tom Tugendhat, député inquiet. Il préside la commission des affaires étrangères à la Chambre des communes et demande au gouvernement britannique, comme à l'Union européenne, de prendre la mesure des enjeux.
Ils sont en train de négocier comme si il y avait des options autres que telles qu'elles sont. En fait, ce qu'on doit discuter, c'est l'avenir de l'Europe. Nous devons trouver une solution. C'est simplement inacceptable que les hommes politiques de l'Europe aujourd'hui échouent dans un moment pareil. L'essentiel, c'est que nous trouvions un accord et c'est à nous, à la fin, de le faire passer au Parlement.
Car cette validation des députés est indispensable. Encore faut-il qu'ils soient présents au Parlement. Après une première suspension de 5 semaines annulée par la Cour suprême, Boris Johnson vient de décider de suspendre de nouveau les débats jusqu'au 14 octobre. Si un accord est conclu, dans l'intervalle, les députés n'auront donc que quelques jours pour organiser un vote, avec le risque que tout capote au dernier moment.
Marc-Antoine Gignot. Il y avait à Bruxelles hier une audience très attendue, celle de Sylvie Goulard devant les eurodéputés. La Française, éphémère ministre des Armées d'Emmanuel Macron, est candidate pour devenir commissaire en charge du marché intérieur, de l'industrie et de la défense. Encore faut-il qu'elle obtienne le feu vert. Ce ne sont pas ses compétences qui font débat, mais des affaires qui lui ont notamment valu de démissionner du gouvernement il y a 2 ans. Elle s'est justifiée hier pendant 3 heures. Marie-Pierre Véraud a assisté à l'audience.
Je suis très émue de revenir devant vous et très heureuse parce que dans cette salle, j'ai beaucoup de souvenirs et je vois beaucoup de visages que j'apprécie.
Elle se veut sereine, Sylvie Goulard, mais très vite, les visages se crispent et le feu roulant des questions démarre. Les affaires, voilà ce qui anime les eurodéputés. Ils veulent en découdre. À l'exception du parti Renew, où siègent les macronistes, toutes les formations attaquent la candidate française sur les emplois présumés fictifs, sur les sommes considérables reçues d'un think tank américain, au point qu'elle finit par lâcher en anglais
« I'm clean ».
Je suis propre.
Je ne suis pas mise en examen.
Et d'en appeler à la présomption d'innocence. Les quelques échanges sur le fond de son portefeuille, marché unique, politique industrielle, défense, ses réponses en 4 langues aux eurodéputés ne feront pas oublier la question de l'intégrité. Andreas Schwab de la commission marché intérieur.
Il reste sur le contenu, mais aussi sur les questions éthiques, encore des points ouverts. Les commissions en charge ont décidé de demander plus d'informations. Cette procédure commence avec des questions écrites.
Et peut-être, si cela ne suffit pas, une nouvelle audition dans 2 semaines, une vexation de plus pour la candidate d'Emmanuel Macron.
Un couvre-feu a été décrété cette nuit à Bagdad. Jusqu'à nouvel ordre, il est interdit de sortir ou de prendre son véhicule. La journée est déclarée chômée pour les fonctionnaires. 9 personnes sont mortes, tuées par balles dans des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Depuis 2 jours, la capitale irakienne est secouée par des manifestations. Des millions de dollars de narcotrafiquants auraient servi à graisser la patte de politiciens du Honduras. Le président hondurien est accusé par un procureur new-yorkais d'avoir touché d'énormes pots de notamment de la part de l'ex-chef de cartel mexicain, El Chapo. Des accusations jugées ridicules par le principal concerné, appelé à démissionner par la population. Placido Domingo démissionne de la direction de l'Opéra de Los Angeles. Le ténor espagnol de 78 ans est accusé de harcèlement sexuel par 9 femmes. Les faits remonteraient à la fin des années 80.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Le gouvernement reconnaît qu'il peut encore progresser 1 semaine après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen.
La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, était entendue hier en commission à l'Assemblée nationale. Cet incendie n'aurait pas dû se produire, a-t-elle aussi déclaré, et nous aurons à en tirer les conséquences. Les premiers résultats scientifiques sont tombés. Ils apportent un début de réponse quant aux éventuelles conséquences sanitaires des fumées noires créées par le feu. Les chiffres des émissions de dioxines sont très bas, Sophie Bécherel.
Sur les premières lingettes analysées, il y a des dioxines. De 40 à 60 picogrammes par mètre carré, c'est parfois plus, parfois moins que la lingette témoin. Le picogramme, c'est 0,00011 après la virgule. Autrement dit, on parle là de traces. Mais c'est justement le propre des dioxines, cette famille de substances. Même à très faible dose, elles sont toxiques. Elles s'accumulent et persistent dans l'organisme et sont capables d'endommager le système immunitaire, de créer des malformations fœtales et de provoquer des cancers. Le seuil de toxicité fixé par l'Organisation mondiale de la santé est de 28 picogrammes par jour pour une personne de 70 kg, 28 picogrammes avalés. Et c'est la raison pour laquelle les autorités, dès jeudi dernier, ont interdit la vente de produits agricoles locaux. Des analyses sont en cours sur ces produits végétaux et animaux. On n'a pas encore les résultats. En attendant, les premières analyses sont plutôt rassurantes. Reste l'effet cocktail de toutes ces substances toxiques. On en sait très peu de choses. Il inquiète les associations qui, depuis longtemps, réclament plus de recherches à ce sujet et un suivi sanitaire des personnes exposées.
Personne ne sait exactement ce que donnent ces produits mélangés lorsqu'ils brûlent, avait aussi reconnu hier la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Pour répondre aux inquiétudes des habitants, un numéro vert a été mis en place hier, le 0800 009 785, 0800 009 785. Le procès du scandale sanitaire du Mediator se poursuit. Le tribunal correctionnel de Paris a continué à écouter les témoins hier, des représentants de l'inspection générale des affaires sanitaires et des gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à la santé publique se sont succédés à la barre, reprochant un retrait tardif du médicament aux effets indésirables. C'était encore une journée difficile pour les laboratoires Servier mis en cause, le compte-rendu de Florence Turm.
Les laboratoires Servier ont anesthésié, roulé dans la farine certains des experts de l'agence du médicament. Les mots figurent noir sur blanc dans le rapport de l'IGAS. L'avocat de Servier s'en offusque, mais l'ancien directeur de l'inspection générale des affaires sociales ne se démonte pas. La nature des faits reprochés justifiait les termes employés dans le rapport. Les débats à peine entamés, la stratégie de la défense de Servier se dessine. Pour elle, l'enquête s'est concentrée sur les laboratoires en laissant de côté l'Agence nationale de sécurité du médicament. Aurait-elle bénéficié d'un traitement différent de la part des gendarmes de l'OCLASP, l'office central chargé de l'enquête judiciaire. L'enquêteur, cité comme témoin, s'en défend. On sortait d'une période marquée par le sang contaminé et l'amiante. L'objectif était de faire vite et bien. Nous avons choisi de découper le dossier en commençant par les laboratoires Servier. Nous avions un nombre conséquent d'éléments à exploiter. François de Castro, l'avocat de Servier, reprend alors la question en boucle. Pourquoi avoir attendu un an pour organiser une perquisition à l'agence? L'audience ne livrera pas la réponse. Le chef d'escadron cité par la défense explique qu'il n'est intervenu qu'à la marge dans le dossier, mais qu'il n'a jamais reçu d'instructions du parquet afin de protéger l'autorité sanitaire.
Et les audiences reprendront cet après-midi. Le procès doit se poursuivre jusqu'en avril 2020. Ils se sentent seuls et doivent tout gérer. La violence de certains élèves, le manque de soutien parfois des parents et les démarches administratives. Pour se faire entendre, les enseignants et les directeurs d'école de Seine-Saint-Denis sont appelés à faire grève et à manifester aujourd'hui. Il y a une dizaine de jours, la directrice d'une école maternelle à Pantin s'est suicidée. Dans sa lettre d'adieu, elle faisait mention de son état de stress et de son épuisement au travail. Nous en reparlerons dans le journal de 8h de France Culture. Un malaise profond aussi chez les policiers, très sollicités depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. 27 000 ont défilé dans les rues de Paris hier selon les organisateurs. Une mobilisation inédite pour les forces de l'ordre en près de 20 ans à l'appel d'une intersyndicale. On attend maintenant des réponses et des actes concrets, estime le secrétaire général d'Alliance. L'une des raisons de la colère des policiers, c'est la réforme des retraites voulue par l'exécutif et qui prévoit l'instauration d'un régime universel. Emmanuel Macron en parlera justement ce soir à Rodez dans l'Aveyron. 3 heures d'échange avec des centaines de Français qui pourront poser leurs questions. Questions concrètes et pratiques, promettent les organisateurs. Le chef de l'État aurait dû s'y rendre la semaine dernière, mais son agenda a été bousculé par la mort de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Beaucoup de nuages encore aujourd'hui et des températures en baisse. Météo France prévoit même quelques brouillards ce matin dans le sud-ouest. Les températures sont comprises entre 9 et 14 degrés sur une majorité du pays, entre 17 et 23 dans le sud. Elles ne vont pas monter beaucoup plus. L'après-midi, comptez 14 à Dunkerque, Paris et Strasbourg, 19 à Grenoble et 23 degrés à Toulon, Guillaume.
Allez, la petite laine sur une partie de la France. Merci Margot Delpierre. Du mouvement dans la lutte contre les sectes, d'où cette inquiétude? Est-on en train de baisser la garde? 7h13 sur France Culture.